La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Pour commencer cette matinale, je souhaiterais revenir sur l'annonce du Comité national olympique et sportif français d'attribuer un quota supplémentaire à la France en ski alpin masculin dans le cadre de la sélection pour les Jeux d'hiver 2026, devant se dérouler à Milan Cortina. Les décideurs doivent annoncer ce mercredi soir, après avoir assisté au slalom de Schlamding, qui bénéficiera de cette place. Cette place supplémentaire, nous la devons à la Norvège qui n'a pas rempli son quota de 10 skieurs, permettant ainsi de redistribuer une place à la France, celle-ci étant en premier sur la liste d'attente mise en place en cas de désistement. Néanmoins, si l'on peut se féliciter de cette place supplémentaire, ce quota par nation fait débat. Certains athlètes de haut niveau, comme Victor Muffat-Jandé ou Alexis Peintureau, ne figurent pas sur la liste des non-sans, donc un système d'allocation complexe, voire incohérent selon eux. En effet, de petites nations profiteraient de ces quotas pour envoyer des athlètes coûte que coûte, quitte à en naturaliser certains. De plus, le barème de points met en avant la pluridisciplinarité, alors même que le combiné a été supprimé. Aussi, les courses des Jeux Olympiques compteront pour la Coupe du Monde, alors même que tous les skieurs ne pourront pas défendre leur chance. Pour être clair, le système de quotas en ski alpin repose sur deux règles simples. D'abord, chaque pays dispose d'un nombre total limité de skieurs, attribué en fonction de ses résultats internationaux. Pour la France, cela représente plusieurs places chez les hommes et chez les femmes, mais pas en nombre illimité. Ensuite, et c'est là que tout se joue, aucune nation ne peut aligner plus de 4 athlètes dans une même course, quelle que soit sa richesse de talent. Résultat, dans les pays forts comme la France, le niveau est tel que tout le monde ne peut pas courir, même parmi les meilleurs mondiaux. Ce système vise à assurer une diversité de nations au départ, mais il conduit aussi à une situation paradoxale. Des athlètes capables de jouer les premiers rôles restent à la maison, pendant que d'autres nations participent avant tout pour être représentées. C'est tout l'enjeu du débat actuel, préserver l'universalité des Jeux sans en diluer l'exigence sportive. Cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Emma Bougerolle, journaliste pour le média indépendant Basta, qui viendra nous parler des méthodes de travail de l'entreprise Shiva. Ensuite, on retrouvera Thierry pour le Flash Info. Enfin, pour les chroniques, nous serons avec Grégory et Farah. Et nous aurons le plaisir aussi d'avoir Juliette qui viendra nous parler de la pièce, enfin pour le Zoom, d'une pièce de théâtre. Mais tout de suite, l'interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bonsoir Emma Bougerolle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à Basta, spécialisée dans les questions de société, de travail et d'ubérisation. Vous avez signé le 14 janvier 2026 une enquête sur l'entreprise Shiva, intitulée Shiva, la face sombre de l'entreprise qui promet un ménage premium. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cet article ?
Alors, en tant que journaliste, on a souvent des messages de personnes qui nous racontent des histoires, leur histoire, des histoires de proches.
Oui.
Et en fait, c'est tombé comme ça dans la boîte mail de Basta. On a une personne qui nous a parlé de l'entreprise Shiva. Et un de mes collègues m'a dit, Emma, regarde... ça pourrait te parler en rapport avec ta spécialisation sur l'ubérisation. Mmh. Et au début, ça m'a semblé bizarre parce que je me suis dit, mais Shiva, ce n'est pas une plateforme de livraison de repas, ce n'est pas une plateforme qui permet de faire de Uber, quoi. Enfin, et en regardant plus finement, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il a raison. Ça me concerne, au sens large, en tout cas, des problématiques de travail qui se recoupent avec l'ubérisation. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressée.
D'accord. Oui, parce que Shiva, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le spécialiste de ménage et repassage à domicile. Plus de 600 agences en France, plus de 26 000 employés de maison, 2 000 collaborateurs, donc assez visibles. D'ailleurs, pour ma part, j'ai vu encore leur affiche XXL tout à l'heure sur les murs dans le métro. Mmh. Avec un statut mandataire. Qu'est-ce qu'être mandataire ?
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. En fait, une entreprise mandataire, sur le papier, elle est censée mettre en contact des travailleurs, travailleuses, et donc des employés de maison et des particuliers employeurs, donc des personnes qui voudraient avoir une prestation de ménage faite chez eux. Et le mandataire, il peut aussi faire une étape en plus, c'est-à-dire réaliser pour le particulier employeur des fiches de paye et d'autres choses administratives. Donc en gros, c'est un intermédiaire. D'accord. Et elle est juste censée faciliter la vie d'un côté pour les employés de maison qui n'ont pas à aller démarcher des clients, etc. Et d'un autre côté, pour les particuliers employeurs qui n'ont pas forcément à mettre le nez dans la paperasse.
D'accord. Et donc, le témoignage, ou en tout cas le message qu'on vous a laissé chez Basta par une employée de maison, j'imagine, qui dénonçait une pratique. C'était quoi la requête de base ?
En fait, c'était une personne qui nous parlait justement de tout ce qui se passait derrière. Shiva, vous avez dit, et moi aussi j'en ai vu des pubs un peu partout, c'est une entreprise qui a une image de service premium.
Premium, tout à fait.
C'est-à-dire, on valorise les employés de maison Shiva. Alors du coup, ce n'est pas nos employés de maison, c'est là où est la petite nuance. Et donc la personne disait, mais derrière toutes ces apparences, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a notamment une question de contrat. La plupart des employés de maison sont proposés des CDDU. Alors les CDDU, c'est quelque chose de très particulier. C'est les CDD d'usage, contrat à durée déterminée d'usage. Et en fait, ça fait que chaque prestation de ménage est comme un nouveau contrat. Mais en plus, à la fin du contrat, on ne bénéficie pas de la prime de précarité, de tout ce qui va autour d'un CDD classique. Des choses comme ça, et notamment aussi de la souffrance au travail, des conditions, des paiements en fait finalement assez bas qui viennent contredire l'image de ménage premium, etc.
Oui, alors j'ai pu remarquer que c'était un CDDU, donc dans votre analyse, enfin dans ce cas dans votre article, vous dites que nous avons des personnes, des employés de maison qui sont là depuis très longtemps. Et j'ai vu aussi que vous avez interrogé, ou en tout cas vous êtes rapproché d'une responsable CGT. Mais c'est interdit, on est bien d'accord. On ne peut pas renouveler des CDD éternellement.
Alors les CDD d'usage, théoriquement, ne sont pas prévus pour ça. Sont prévus pour des choses assez exceptionnelles. Par exemple, admettons, s'il y a une prestation grand ménage, je ne sais pas, pour un déménagement, ça pourrait être pensable. Je ne suis pas non plus totalement experte en droit du travail, mais admettons, dans ce cadre-là, en tout cas, ça semble OK. Pour des choses qui se reproduisent de semaine en semaine, même plusieurs fois par semaine, ça commence à sembler très compliqué, en effet.
Tout à fait. Donc, est-ce qu'on, étant mandataire, vous dites que y a de la souffrance, ils font les contrats. Si j'ai bien compris, c'est que normalement, l'employeur, c'est bien le particulier qui demande un service.
Tout à fait, tout à fait. L'employeur, en fait, théoriquement, c'est la personne qui a le ménage fait chez elle. En fait, ce qui se passe, et j'ai beaucoup de témoignages qui viennent dire la même chose, c'est que ni les employés de maison qui passent par Shiva, ni les particuliers employeurs n'en sont vraiment informés. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils se retrouvent chez Shiva, qu'ils soient employeurs ou employés, se disent que eh bien, c'est Shiva qui gère tout, donc c'est Shiva qui emploie. Et ça, en fait, c'est un flou qui est plus ou moins organisé, mais qui est au détriment des deux côtés, c'est-à-dire des employés, des employeurs. Parce que les employeurs ne savent pas parfois qu'ils sont responsables légalement des employés de maison, et les employés de maison, du coup, se retrouvent aussi dans des grosses problématiques de à qui je dois m'adresser pour demander des augmentations de salaire, à qui je fais valoir mes droits, etc. Et en fait, ce flou-là crée une grande précarité chez les employés de maison.
Est-ce que selon vous, c'est fait de manière délibérée, puisque on voit des contrats, on voit aussi des conditions de travail, de mission. Est-ce que c'est fait de manière délibérée ? On est bien sûr, on est quasiment sur du travail dissimulé finalement.
Mais tout à fait. Vous utilisez le mot travail dissimulé. Il y a une plainte qui a été déposée. Alors pour l'instant, il n'y a pas de tribunal qui a attesté de ça. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont allées porter plainte parce que c'est quelque chose qui est fréquent, qui est à l'échelle de toute l'entreprise, et l'entreprise est très insérée partout. Donc, l'aspect volontaire, il est difficile à prouver journalistiquement, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas un courrier interne de Shiva qui dit « on va cacher à tout le monde ». J'ai des témoignages, par contre, qui montrent une image globale qui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a en tout cas un flou organisé.
Alors, j'ai vu le cas de Irina, puisque votre article commence par le cas de Irina. Irina qui est venue d'Ukraine. On peut supposer, je sais pas, donc je vous demande, du fait qu'on a aussi des personnes qui sont dans une situation de besoin d'avoir une activité, et que on est plutôt sur de la précarité, hein. Le type de population, en tout cas de travailleuses qui sont, parce que c'est essentiellement des femmes aussi, est-ce qu'ils sont tous dans le même cas que Irina?
Pas tous et toutes.
D'accord.
Mais ce sont en général, et en fait dans le secteur en général, j'en parle dans l'article, ce sont des personnes qui, oui, en effet, viennent en grande majorité de l'étranger, donc qui ont aussi parfois plus de difficultés à connaître le droit et à faire valoir leurs droits. Et ça, c'est des choses qui, justement, aggravent la situation. Et c'est absolument pas leur faute. Mais c'est vrai que quand, par exemple, comme Irina, quand on parle pas français, ou pas, elle parle un peu français, mais elle a eu beaucoup de mal à apprendre. Et c'est normal, quand on passe la journée dans le silence à faire le ménage dans les maisons, on n'apprend pas la langue du pays dans lequel on vit.
Bien sûr.
Et qui se retrouvent du coup particulièrement isolés. C'est aussi des travaux qui se font à l'intérieur des maisons des gens, souvent sans les personnes. Donc on n'a personne à qui on peut parler. On n'a personne à qui demander « mais attends, tu crois que ça c'est normal ou pas ?» Et ça, c'est des choses, c'est des caractéristiques du secteur, plus que même de Shiva, mais qui rendent, qui bien sûr, comme vous le dites, augmentent cette précarité, quoi.
Oui, et dans votre enquête, lors de votre enquête, vous avez pu rencontrer des particuliers?
J'en ai discuté avec après. Dans le cadre de cette enquête-là, en fait, c'est assez compliqué parce que justement, comment est-ce qu'on trouve des particuliers employeurs? C'est pas forcément des personnes qui vont beaucoup se poser de questions sur Internet, par exemple. C'est plutôt des personnes qui vont, elles, essayer de faire valoir leurs droits, soit auprès d'une agence Shiva, soit dans d'autres cercles. Mais ce sont des personnes quand même qui s'intéressent, puisque ce sont des personnes qui m'ont aussi contacté après pour me donner leur témoignage et leur version des faits et leur vision de la relation avec Shiva, qui est assez finalement concordante avec la version des employés de maison.
Parce que alors, dans un cas concret, on a Shiva, on a le particulier. Shiva rend service au particulier, c'est-à-dire qu'il va... qu'est-ce qu'il va faire pour le particulier, pour l'employeur réel, normalement?
Alors, il va lui trouver un ou une employée.
D'accord.
Donc, une mise en relation. Et aussi faire tous les mois, donc récupérer, faire les salaires. D'accord. Faire les fiches de paye. Verser les salaires. Toutes ces choses, en fait, que des personnes pourraient trouver assez intimidantes. Le problème, c'est qu'en fait, elles pensent que Shiva le fait. Parce que Shiva est l'employeur. Et donc, ils n'ont pas à s'en soucier, puisque de toute façon, c'est même pas eux l'employeur. Ce qui est faux, et ce qui est du coup un détournement aussi du statut de mandataire. Enfin, là, c'est pas un détournement du statut de mandataire, mais tout ce qui va derrière, c'est-à-dire le lien de subordination, et je peux l'expliquer après, ça, c'est un détournement.
Donc, allez-y, je vous en prie.
Non, pour le lien, du coup, pour le lien de subordination, en fait, c'est un peu, peut-être un peu du jargon, mais ça se comprend quand même dans l'intitulé.
Oui.
En fait, le lien de subordination, c'est quand il y a trois éléments. C'est quand il y a la direction, le contrôle et la sanction. La direction, c'est-à-dire le fait de donner des ordres à quelqu'un. Le contrôle, c'est vérifier que la personne a bien exécuté les ordres. Et la sanction, c'est du coup sanctionner la personne si elle n'a pas exécuté les ordres.
Et là, c'est le cas de Shiva. C'est Shiva qui fait ça en ce moment. Enfin, dans les témoignages, c'est bien ce qu'il fait. Il fait tout ça.
Exactement, exactement. Alors que ça, normalement, c'est ce qui caractérise la relation entre l'employeur et le salarié.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est là où il y a des personnes qui vont aller aussi poursuivre en justice, et c'est là où on va parler notamment de travail dissimulé.
D'accord. Alors, concrètement, vous avez évoqué les pratiques qu'ils faisaient. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'ils font et ce qu'ils ne devraient pas faire? J'ai vu qu'il y avait la géolocalisation.
Pour prendre la géolocalisation, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que les employées de maison, elles doivent pointer sur une application, donc l'application Shiva, pour dire qu'elles ont bien fait les heures de travail. Et les personnes sont fortement, très fortement incitées dans pas mal de cas à mettre la géolocalisation de leur téléphone pour que ce pointage se fasse automatiquement. C'est-à-dire de vérifier, de surveiller le fait que les femmes de ménage, enfin, les employées de maison, sont bien un domicile, un temps déterminé. Et c'est Shiva qui vérifie ça. C'est pas le particulier employeur.
Est-ce que c'est légal, Emma? Est-ce que c'est légal de faire ça?
Malheureusement, ce n'est pas à moi de le décider. D'accord. Parce que je suis journaliste et que moi, mon travail, c'est de le raconter. Là, pour l'instant, visiblement, les tribunaux vont s'en saisir, donc ce sera décidé. Mais le problème, c'est que c'est des zones aussi, pour avoir travaillé aussi sur les entreprises comme Uber, Deliveroo, etc. Il y a des choses qui sont illégales dans leur pratique, mais il y a aussi des choses qui jouent sur un flou, en fait, du droit du travail et sur des complexités, des interprétations qui sont vraiment aux tribunaux de trancher, quoi.
Et vous avez pu approcher des personnes de chez Shiva pour en parler ?
J'ai essayé. Parce que ça fait aussi partie de mon travail. Moi, j'avais envie d'avoir des réponses. J'avais envie de... si vous allez voir tout à la fin de l'article, il y a toute une liste de questions qui est quand même assez longue pour leur donner l'occasion de répondre en fait à tout ce que j'ai écrit dans l'article. Mm-hmm. Parce que ça fait partie de mon travail, mais aussi parce que c'est intéressant pour les lecteurs et lectrices de savoir.
Bien sûr.
Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse.
Ah. Parce que dans le cas où... Ils sont pas employeurs et le particulier n'est pas employeur. Le risque dans les conditions de travail, protection sociale, vous l'avez évoqué. Quelles sont les conséquences de ça?
Pour les particuliers employeurs, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais un ou une employée de maison décidait de poursuivre son particulier employeur, il pourrait. Et ça, c'est des choses dont les personnes ne sont pas du tout conscientes. Et moi, j'ai parlé à pas mal d'employés de maison qui ont dit « mais je vois bien que je pourrais faire ça, mais en fait, ce sont des personnes que j'ai fini par connaître, avec qui j'ai créé des liens de confiance. Moi, je ne vais pas aller poursuivre le petit monsieur chez qui je fais le ménage deux fois par semaine. » Mais ce serait possible. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a aussi le fait que, par exemple, Shiva fixe les salaires. Et donc, c'est une négociation avec Shiva. Dans beaucoup de cas, en tout cas, dans les témoignages que j'ai recueillis, à chaque fois, c'est ça. Et donc, ça ne permet pas aux personnes d'exercer leur plein droit. C'est-à-dire que normalement, c'est des choses qui sont négociées avec le particulier employeur. Et du coup, ça change beaucoup la dynamique aussi. Voilà.
D'accord. Parce qu'il y en a quand même... Vous avez eu combien de témoignages en tout ?
J'ai eu combien de témoignages en tout ? C'est une bonne question.
Une dizaine. Et ouais. Le fait d'avoir écrit l'article, je pense, nous on en parle ce soir, mais je pense que ça va aussi faire partie de nos flash infos, etc. Et puis même, ça va, je pense, j'espère, dans les actualités. Est-ce que il est envisagé par rapport à... Je sais que vous êtes en relation avec une responsable CGT. Est-ce que c'est envisagé de faire un recours collectif?
Il y a une association qui s'est montée par l'initiative justement de la fille d'Irina, notamment. Donc avec cette idée de faire collectif, en fait de pallier ce tort du milieu qui est on est très isolé, et donc essayer de faire collectif, donc essayer de créer une dynamique. Des recours légaux aussi, en tout cas là, du coup avec la plainte que j'ai mentionnée, il y a des choses qui commencent. Voilà, c'est ça que je pense.
L'idée, évidemment, votre objectif en dénonçant justement le cas de Shiva, quel est votre objectif ? C'est une question réelle, parce que en plus, j'ai pu constater, vous l'avez mis dans votre article, que Shiva, c'est qu'une partie d'un grand groupe et qui fait la même chose.
Tout à fait, et c'est une partie aussi d'un système. Moi, pour du coup avoir passé des mois aussi à discuter avec des personnes, d'autres élus syndicales, etc., qui disent « mais en fait, Shiva, c'est juste un tout petit morceau du problème global ». Donc, moi, mon objectif, c'est déjà de prendre le problème par un bout, c'est-à-dire de raconter une histoire, de parler d'une entreprise, et il y en a d'autres, il y a d'autres entreprises qui ont le statut de mandataire. Est-ce qu'il y a des abus dans ces entreprises-là ? Peut-être, il faut aller voir. Et puis, c'est aussi simplement d'informer. Cette enquête, elle n'avait pas été faite avant. Les coulisses de Shiva n'avaient pas été racontées avant, et je pense que c'est important. Moi, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages après en me disant « En fait, je me posais des questions, j'ai cherché et je suis tombée sur votre article. Et merci parce que ça parle de ce que j'ai vécu, de ce que je pensais, de ce dont j'avais peur, etc. » Donc, c'est aussi de juste commencer à prendre le bout du problème. j'aimerais bien continuer d'écrire. Donc, sincèrement, à la fin de l'article, il y a mon contact. Et si les personnes qui écoutent ont envie de raconter leur expérience avec Shiva, que ce soit en tant que particulier employeur, qu'employé, que proche, ma boîte mail est ouverte.
D'accord.
Et je lis les mails avec attention et j'essaie de répondre à tous. Et voilà. Moi, c'est mon objectif journalistique, donc c'est-à-dire d'informer avant tout.
D'accord. Est-ce que, alors justement, parce que là, on a aussi des jeunes qui nous écoutent. Vous avez, je ne sais pas si vous avez pu recueillir. Là, on a des personnes de maison, mais j'imagine que c'est aussi du travail pour un peu, enfin, comme les étudiants qui font aussi des travaux, vous savez, en complément de leurs études. Mm-hmm. Qu'est-ce que, si vous devez leur donner un conseil, qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes qui nous écoutent retiennent de votre enquête, justement ?
Attention. Attention, parce que. En fait, des entreprises aussi sur lesquelles j'avais travaillé, qui est du type StaffMe, StudentPop, etc., qui promettent une grande flexibilité, qui promettent de travailler quand tu veux, de te faire plein d'argent. En fait, il y a toute une face cachée à ça. Mmh. Et tout ce narratif de facilité, de flexibilité, etc., il a un prix. Et en fait, il a un prix qui est payé par les personnes qui les utilisent. C'est-à-dire que oui, on peut se faire de l'argent peut-être plus rapidement. Oui, en travaillant avec Shiva, en fait, c'est plus facile parce qu'on n'a pas forcément besoin de se faire un réseau, parce qu'on a une certaine flexibilité dans choisir ses horaires, etc. Mais en fait... particulièrement pour les plateformes d'ubérisation de petits jobs étudiants, etc. En fait, on ne cotise pas de la même manière. On n'est pas protégé comme un salarié. Et ça, c'est des choses dont on se rend compte souvent quand il y a un problème. Mmh. Ou souvent quand, beaucoup plus tard, on se dit « Ah mais attends, mais je n'avais pas travaillé pendant 2 ans pour ce truc. Est-ce que je ne pourrais pas le faire voilà, pour mon chômage ou pour ma retraite ?» Et en fait, zéro. Et ça, c'est des choses qui sont volontairement effacés des narratifs, bien sûr, publicitaires, mais qui ont des conséquences réelles pour tout le monde.
Tout à fait. Et alors, j'en profite, Emma, de vous avoir, et vous plongez un petit peu dans un enjeu plus large. Cette enquête révèle quand même, quand on voit les médias autour de Shiva, l'évolution du travail d'aujourd'hui et justement dans ce secteur peu visible qui peut vite, je pense, avoir des dérives. Et est-ce que c'est un peu une révélation de notre société, vous qui faites des enquêtes justement sur le monde du travail ?
C'est une évolution certaine. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'Uber en France et de ce modèle-là, il y a de plus en plus d'entreprises. Et alors, c'est un peu différent de Shiva, mais il n'empêche que c'est des mutations du travail profondes et d'une déconstruction aussi de tout notre système de protection sociale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas les mêmes cotisations, du coup, comme je disais, pour la retraite, pour l'assurance chômage, mais aussi pas les mêmes cotisations sociales, etc. Et en fait, cette déconstruction du monde du travail, je ne sais pas vers où ça va aller. Je ne suis vraiment pas devin. Je suis même très mauvaise à ça. Mais... En tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que ça a un coût pour la société et pas que pour les personnes qui travaillent avec ces entreprises-là.
Et on entretient, j'ai l'impression aussi qu'on entretient cette précarité, puisque ça a l'air si simple d'y entrer, visiblement. Et en plus, vous l'avez évoqué dedans, ils font dans les médias des photos de stars de ces agents de ménage. C'est, selon vous, c'est un petit peu le bout de l'iceberg en fait vous avez enquêté, il me semble c'est des livres que vous avez fait.
Mm-hmm.
C'est ça, donc on arrive vraiment sur ce système là du doré devant et comme on dit, ce qui brille n'est pas de l'or, c'est bien ça.
Et vous avez
et vous avez d'autres exemples de ce type sur lesquels on devrait être vigilant?
Ben écoutez, à part ces plateformes étudiantes, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des rapports, il y a des tonnes et des tonnes d'articles de confrères et de consoeurs qui parlent de l'ubérisation du monde du travail et qui vont nommer plein d'entreprises. Il y a quand même beaucoup de travail qui est fait dessus, hein, donc je pense que c'est à peu près à portée d'une recherche de moteur de recherche. Mais comment dire ? Juste faire attention, lire, voir, il y a pas mal de secteurs, non. Si c'est une radio étudiante, oui, tout ce qui est StaffMe, StudentPop, etc. J'avais publié une enquête il y a quelques années maintenant, mm-hmm. qui parle justement de cette ubérisation-là à D'accord. destination des étudiants.
Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette interview, Emma. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir
merci
été avec nous. Et merci pour votre travail et pour ces éclairages. Très bonne
merci.
Soirée. Au revoir.
Très bonne soirée. Au revoir.
Merci Emma et Francesca pour cette interview. Et tout de suite, Soul and Plan par The Patch Thing Tong Band. C'était Soul and Plan by The Patch Thing Pong Band et vous êtes toujours sur Radio Campus 93.9 et tout de suite on passe au Flash Info avec Thierry.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Jeanne et bonsoir à tous. À retenir dans l'actualité de ce mercredi 28 janvier, retour sur l'incendie qui s'est déroulé hier soir à la station de ski de Courchevel en Savoie, dont deux hôtels de luxe. Près de 300 personnes ont été évacuées. Environ 120 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui a touché une partie de la toiture d'un des établissements. Un mot de politique, le budget 2026 a été transmis au Sénat après le rejet hier de deux nouvelles motions de censure à l'Assemblée nationale. Ce matin sur RTL, le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, s'est dit favorable à une question préalable, c'est-à-dire une motion de rejet votée avant même de se pencher sur le cœur du texte. Pour lui, il s'agit d'un mauvais budget. Cinéma. L'Académie des Césars a communiqué ce matin la liste des nommés pour le meilleur film. Parmi les favoris, on trouve Nouvelle Vague du réalisateur Richard Linklater, L'Attachement de Corinne Tardieu ou encore Dossier 137 de Dominique Moll. La 51e cérémonie se déroulera le 26 février à l'Olympia. Sport, football, le Paris Saint-Germain affrontera ce soir les Anglais de Newcastle dans le cadre de la 8e journée de la Ligue des Champions. Le tenant du titre devra l'emporter afin de se qualifier directement pour les 8e de finale de la compétition. Enfin la météo, le temps prévu pour demain jeudi à Paris et en Ile-de-France. La journée devrait être majoritairement nuageuse, fraîche et humide, avec un risque de pluie qui augmentera nettement en soirée. Les températures resteront stables autour des 7 degrés. Fin de ce flash, 19h, bientôt 31 minutes. Merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris avec la suite de votre matinale avec Jeanne et toute son équipe. Très bonne soirée et à bientôt.
Merci Thierry, je laisse désormais la parole à Grégory pour la chronique actu.
Bonsoir, bonsoir. Comme vous le savez, une des nombreuses Fashion Week vient de se terminer avec son lot de stars et d'extravagances comme on les aime. Ou comme on peut s'en foutre aussi, c'est au choix. Mais moi, si je dois être honnête, il y a quand même un truc qui me plaît dans ce carnaval des égos. Je sais pas, ça me fait toujours plaisir de revoir ma petite Rihanna se balader devant des palaces en laissant planer le doute sur une possible grossesse. Bah, ou encore plus récemment, de suivre en live la psychothérapie de la famille Beckham. Alors, aux dernières nouvelles, Brooklyn, le fils aîné, aurait décidé de mettre de la distance avec papa et maman toxiques. Est-ce pour cette raison que Victoria vient d'être décorée de la médaille de chevalier des arts et des lettres par Rachida Dati? Ça, je ne sais pas. La ministre de la Culture a peut-être fait un double cursus en secret pour devenir psy des familles. Affaire à suivre. Ou pas, d'ailleurs, ça aussi, on peut s'en foutre largement. Non, si on en revient au vrai sujet... La Fashion Week, à la base, c'est la présentation des collections de vêtements qui vont driver la mode durant des semaines et, accessoirement, transformer une partie de l'Afrique en dépotoir. Et c'est donc dans ce contexte très je m'en foutiste qu'une nouvelle collab a fait parler d'elle. Pour celles et ceux qui ignoreraient ce qu'est une collab, c'est quand deux marques s'associent pour créer un produit inédit. Et ouais, on dit collab, ouais. Ouais, c'est plus cool que partenariat ou alliance. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire une collaboration, mais en 2026, flemme non, qui utilise encore des mots de 5 syllabes. Non, si on veut attraper le consommateur, faut du court là, faut du percutant. Et en plus court, on avait le choix entre quoi, une collabora? Non, chelou, en plus moi si on me propose une collabora, je prends mon passeport, mon maillot de bain direct pour me rouler dans de la fleur de tiare. Non, non, il y avait bien une autre option pour faire plus court, on aurait pu dire faire une collabo. Ouais, on est d'accord, ça nous a prouvé que ça fonctionne pas super bien et pas forcément dans le bon sens. Donc collab, ouais, au final, c'est très bien. Et justement, celle dont je voulais vous parler, c'est la marque Crocs qui s'est associée à la marque Lego pour proposer une paire de pompes improbable. Bah, en gros, vous enfoncez vos pieds dans deux énormes briques de construction rouge. Vous y ajoutez une petite lanière quand même derrière la cheville pour vous sentir maintenu. Et vous voilà prêt à défiler de la plus fashion des manières. Alors, beau, pas beau, confortable ou non, ça c'est pas vraiment le sujet. Ça reste une pièce artistique, pop, fun aussi. À chacun d'y trouver son plaisir. Non, ce qui est potentiellement gênant, c'est de voir le nombre de personnes se faire harponner par les publicités en tout genre, leur faisant croire que pour être des gens qui comptent dans cette société, il suffit de dépenser 199,99€ pour acquérir cet objet soi-disant rare. Tout ça est évidemment regrettable et on préférerait que ces marques collaborent autour d'actions plus vertueuses et écologiques. Mais bon, en attendant, pour les personnes dont la collab hémisphère droit, hémisphère gauche a échoué, bah vous pourrez vous procurer ces Crocs Lego à partir du 16 février. Et puis pour tous les autres, continuer à marcher pieds nus sur des Lego, ça ramène plutôt bien à la vraie vie.
Merci beaucoup Grégory et tout de suite on écoute The Holy Hour par The Cure. C'était The Holy Hour par The Cure. Et tout de suite, je passe le micro à Juliette, Farah et Anna Harel qui reviendront sur la pièce Une cabane pour Anesto, mise en scène par notre invité. Bonsoir Anna, bonsoir Juliette, bonsoir Farah.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Anna Harel, salut.
Salut.
Bienvenue chez nous. Je vais te présenter rapidement et tu me corriges si je me trompe. Tu es comédienne,
ouais,
autrice, metteuse en scène.
Ouais.
Ok. Et tu viens de nous... Ah oui, tu es aussi co-créatrice de la compagnie L'Inexplicable.
Tout à fait.
Ok. Et tu viens ce soir nous parler de la pièce Une cabane pour Ernesto, dont tu es l'autrice et metteuse en scène.
C'est ça.
Alors, la pièce se joue au Théâtre du Chariot du 5 février au 1er mars 2026.
Exactement.
Résumé. Sur scène, 5 enfants cherchent à comprendre leur place dans le monde des adultes. Peu à peu se dessinent des dynamiques de pouvoir. La violence se resserre comme un étau jusqu'à ce que 2 d'entre elles commettent l'irréparable. Les enfants se voient alors offrir une seconde chance, la possibilité de reconstruire ailleurs. Elles transforment la salle de classe en bateau et s'embarquent pour l'Antarctique pour la page blanche. Mais comment construire ensemble ? Alors, Ernesto, c'est un enfant, un personnage de roman, celui de La pluie d'été de Marguerite Duras. Et j'aimerais bien savoir ce qui t'a inspiré dans ce personnage particulièrement.
Ouais, exactement. En fait, nous, à l'origine, il y avait la volonté d'écrire un spectacle sur l'enfance, sur les enfants, sur l'école. Et comme on travaille en écriture de plateau, en fait, on accumule énormément de matériaux. Donc, des romans, des poèmes, des films, des documentaires, de la socio. Enfin, vraiment, on accumule, quoi. Et dans cette accumulation-là, j'ai lu, conseillé par je ne sais plus qui, La pluie d'été de Duras. Et ça a été un peu un moment assez fort de la création parce que nous, on cherchait à parler de certains aspects de l'enfance qu'on pourrait définir un peu comme la tristesse de l'enfance, la solitude de l'enfance. Et Ernesto, c'est un personnage qui vraiment incarne ça, quoi. Ernesto, c'est un enfant, on ne sait pas quel âge il a dans le livre. C'est un livre assez étrange et lui-même, c'est un personnage très étrange. Et en fait, du coup, le personnage d'Ernesto qui cherche sa place dans le monde, ben, on s'est dit qu'on pouvait s'en inspirer. Et c'était un peu aussi, écrire le spectacle, c'était un peu une manière de proposer un autre destin pour ce personnage qui n'a pas un destin très heureux dans le livre. Et en fait, là, c'était un peu un autre destin avec d'autres rencontres et une autre construction d'autre chose, quoi. Et donc, on a repris aussi des bouts du texte de Duras qui sont portés par Ernesto dans le spectacle. Et donc, ça permettait aussi d'élargir à quelque chose de plus poétique, de plus philosophique. Voilà.
Ok, trop bien. Si jamais tu veux rajouter des trucs, Farah, n'hésite pas.
Mais oui, justement, par rapport à la place de l'enfance, je me demandais, parce que là, c'est pas une adaptation.
Non.
De ce livre, c'est une proposition d'une nouvelle suite d'histoire. Ernesto est une fille qui est accompagnée de 4 autres filles de CM2. Ouais. Pourquoi avoir voulu ça, le groupe, le fait que ce soit une fille et surtout apporter une histoire avec plus de lumière?
Alors, wow, c'est beau, c'est plein de
c'est
questions.
C'est plein de questions, tu m'as dit une question. Ah, je sais pas, prends-en une.
Le groupe, ça s'est fait parce qu'on a regroupé des comédiennes qui étaient aussi danseuses, enfin certaines sont aussi danseuses ou circassiennes pour monter le spectacle. Donc le groupe s'est fait comme ça. Il se trouve que c'était 5 femmes. Et en fait, il y avait ce personnage d'Ernesto, on avait envie de garder le prénom. Mais on a gardé le fait que c'était 5 petites filles, dont une qui s'appelait Ernesto, parce qu'en fait, le fait d'introduire des différences de genre dans un récit, ça pose plein d'autres questions, et qui sont très intéressantes, mais en une heure de spectacle, on ne peut pas parler de tout. Et donc, le fait qu'elles aient toutes le même genre, ça nous simplifiait de ce côté-là, et ça faisait que ce n'était pas ce sujet-là qu'on traitait. Mmh. Donc ça, c'était...
Une variable en moins, un peu.
Un peu, ouais. Mais parce qu'en fait, on est obligé d'enlever des variables quand on fait des spectacles, quoi. Parce que tu peux pas tout mettre. Parfois, justement, t'essaies de tout faire rentrer. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que faut faire des choix, en fait. Enfin, voilà.
Moi, j'ai une question. Ouais, la pièce, elle parle de violence, de dynamique de pouvoir.
Ouais.
Et comment ça se traduit chez les enfants, d'après toi ?
Oh, comment ça se traduit ? Nous, dans ce qu'on raconte, ça se traduit par la violence et verbale et physique. Les enfants, ils sont assez... je sais pas si vous avez beaucoup d'enfants autour de vous et tout. Moi, je travaille avec des enfants. Ils sont quand même... Enfin, ils peuvent être super violents, quoi. Enfin, ils crient beaucoup, ils se tapent beaucoup, ils se battent beaucoup. Ils peuvent se dire des trucs vraiment horribles. Enfin, il y a une vraie violence dans l'enfance. Et nous, le parti pris qu'on prend dans le spectacle, c'est de se dire que cette violence, elle est aussi liée au fait que ils vivent dans un espèce de monde avec que des murs autour, quoi. Que eux-mêmes vivent de la violence tout le temps parce qu'ils sont pas libres et qu'ils vivent dans un monde qui est pas du tout pensé pour eux, dans lequel ils sont pas tellement les bienvenus. Je prends un petit clin d'œil à la SNCF en ce moment d'ailleurs. C'est hyper violent en fait de vivre dans un monde comme celui-là et de rien pouvoir décider de sa vie et de. Enfin, il y a des trucs qu'on trouve hyper normal qu'on fait avec les enfants qui sont impensables avec des adultes. Enfin, la manière dont on donne des ordres aux enfants, la manière dont beaucoup de gens crient sur les enfants quand même. Enfin, on les oblige à finir leur assiette. Enfin, des trucs qui paraissent un peu fous, quoi, si on les appliquait à des adultes. Et du coup, nous, c'est un peu l'hypothèse qu'on fait, c'est de se dire que cette violence-là de la hiérarchie et de l'oppression, en fait, elle crée de la violence entre les enfants. Voilà.
Ok.
Donc c'est les dynamiques de pouvoir se dessinent comme ça, quoi.
Ce qui est un petit peu rassurant, c'est que cette violence va arriver jusqu'à un pic qui va aboutir sur une tragédie. Est-ce qu'on part de la tragédie?
Est-ce qu'on laisse
ça
un peu de mystère.
Okay, on spoil pas. Mais il y a après la lumière.
Bah, c'est clair, on spoil pas, mais il faudra venir, parce que du coup il y a 16 dates, du 5 février au 1er mars, je le rappelle, au théâtre du Chariot.
Du jeudi au dimanche.
Trop bien, du jeudi au dimanche, ça c'est bien. Moi j'aimerais savoir depuis combien de temps tu travailles sur ce projet et par où tu es passée pendant cette création.
Alors ce projet, c'est un vieux projet en fait, c'est le premier spectacle de la compagnie. On a commencé à bosser dessus en 2020. Bon, 2020 ça a fait que c'est un peu mort dans l'œuf. Et on a repris 2 ans plus tard. À l'origine, on était avec Valentine qui a fait la scéno et les costumes du spectacle. On voulait travailler ensemble et on avait cette idée de travailler sur l'enfance et du coup on a fait donc comme je vous disais toutes les recherches, on a commencé l'écriture de plateau et tout, on a joué une première version du spectacle qu'on a un tout petit peu tourné et moi j'avais le sentiment qu'on n'était pas allé au bout de quelque chose dans l'écriture, dans la dramaturgie. On était très contentes, mais il manquait des choses. Et donc, on a repris l'écriture et on a relancé le projet, en fait. Et donc là, on joue les 16 dates. Et on est passé par, écrire un spectacle, quoi. Tu passes par des moments où tu as l'impression qu'en fait, il faut tout arrêter et que ça ne sert à rien. Et des moments où tu es content de le faire. Et généralement, je me dis que de toute façon, c'est que du théâtre. Donc, il faut...
C'est vrai.
Faut se calmer un peu.
Oui, c'est clair. Mais en tout cas, pour pas lâcher, faut avoir une sacrée motivation sur le sujet de l'enfance.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, moi, c'est un sujet qui me tient de ouf et je pense qui me traverse aussi dans les autres spectacles, dans mes autres recherches. Enfin, il y a un lien à ça qui est assez fort, je pense. Mais parce que je pense que le théâtre, il y a un truc de l'enfance en fait de fou, quoi. Et dans le fait d'imaginer des mondes et tout. Nous, dans ce qu'on raconte là, c'est des enfants qui, ensuite, dans la suite du spectacle, inventent un monde dans lequel elles décident de vivre et tout. Mais en fait, ça, on ne peut pas le raconter sans le théâtre. Enfin, il y a un truc où c'est possible parce que c'est au théâtre aussi. Et inventer, c'est l'apanage et de l'enfance et du théâtre, moi, je trouve, quoi. Enfin, de croire 100% à ce que tu fais alors qu'en fait... Tu sais que c'est pour de faux et pourtant t'y crois quand même, quoi.
Oui, c'est ça, c'est jouer en plus.
Complètement.
Le mot, c'est jouer, quoi. Donc c'est clair. Tu veux peut-être dire un truc?
Je peux?
Ouais, vas-y, carrément.
Ok. Justement, inventer un monde, il y a quand même cette question de comment on construit et qu'est-ce qu'on construit après l'effondrement, donc la fameuse tragédie dont on parlait avant. Et un des processus que vous avez choisi de prendre, c'était d'interviewer des enfants. Vous leur avez posé 2 questions. Ce serait quoi pour toi un monde parfait et qu'est-ce que tu ferais dans ce monde? Pourquoi cette méthodologie dans le processus artistique?
En fait, c'était parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un spectacle sur l'enfance sans poser la question à des enfants de qu'est-ce qu'ils voulaient raconter eux, quoi. Et donc nous, on avait envie de parler de la construction d'autre chose, donc les questions qu'on leur a posées, c'était ça. Et c'était assez génial. J'aurais dû finir avec des extraits, ça aurait été super.
Mais on les écoute, venez voir le spectacle,
parce qu'on entend les voix des enfants. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'ils ont plein d'idées super. Ils ont aussi des idées terrifiantes. Hein. Franchement, il y en a, ils veulent juste être dictateurs du monde. Ils le disent comme ça.
policiers. Et ils veulent tous devenir policiers.
Terrible.
C'est fou.
Terrible.
Ah bon?
Non, mais tu vois, il y en a, disaient, et alors tu ferais quoi dans le monde? Ils sont en mode, ben, je serais la reine, bien sûr.
Bah oui.
Là, ok. Ouais, enfin, en fait, ils ont plein d'idées, ils ont plein de trucs. Et nous, ça nous a à la fois inspiré pour des scènes entières qu'on a écrites, quoi, de qu'est-ce qu'ils pourraient créer. Et à la fois, bah, c'est des voix qui nous ont accompagnés aussi, en fait. Et il y avait presque, à la fin, il y avait presque un truc de le faire pour eux, le monde qu'ils avaient envie de créer, nous, on le créait dans le spectacle, quoi. Et donc, il y avait un truc. C'était presque une manière de les remercier aussi, en fait, de faire ce spectacle-là.
Trop bien. Trop bien. j'ai une dernière question. Ouais, j'aimerais savoir ce que tu as appris, si tu as compris des choses de toi, de quand tu étais enfant, en créant une cabane pour Ernesto.
Deep.
Oh, wow.
Un peu deep.
C'est hyper deep.
Mmh.
est-ce que j'ai appris des choses de moi? J'ai compris de ma propre enfance.
Oui, de l'enfance en tout cas à travers tes yeux. Pas forcément de la tienne, mais de toi, comment tu voyais les enfants.
Ouais, je me suis mise à travailler avec des enfants entre-temps, en plus. Donc je pense que ça a quand même vachement modifié. Enfin, ça a grave nourri mon rapport aux enfants et à l'enfance et à l'importance de tout ce qui se passe dans leur vie, en fait, au même titre que ce qui se passe dans la vie des gens. Et je pense, ouais, ça m'a quand même bien fait réfléchir à... On a trop envie de se souvenir du meilleur de l'enfance, alors qu'il y a quand même plein de trucs qui sont durs, et sans parler de trucs hyper graves et tout. Hein, quand bien on pourrait en parler, d'ailleurs, mais c'est pas le sujet du spectacle, en tout cas, mais...
Même dans des enfances pas difficiles.
Ouais,
c'est ça.
En fait, moi j'ai le souvenir de grands moments de solitude, mais presque une solitude existentielle, quoi. Un peu des trucs de genre. Enfin, ouais, de comprendre le monde qui t'entoure et que personne t'explique et que tout va trop vite et tout le monde s'en fout un peu de ton rythme à toi et faut courir parce que t'as des plus petites jambes et quand les adultes y marchent. Enfin, un peu tous ces. Donc ouais, je pense que, je sais pas si ça m'a fait comprendre des choses, mais je pense que ça m'a fait remettre de la poésie dans tout ça, en tout cas. Mais ouais, voilà, c'est un peu une drôle de réponse, mais...
Ouais, c'est super, de toute façon c'est libre. donc ouais, je le rappelle, le spectacle s'appelle Une cabane pour Ernesto, c'est au Théâtre du Chariot du 5 février au 1er mars, du jeudi au dimanche, et vous avez 16 occasions d'y aller, donc franchement je vous la conseille, moi j'ai déjà vu, c'est extraordinaire.
Merci. On y sera. Super, super. Bien, merci beaucoup Anna d'être venue chez Radio Campus. Merci Juliette, merci Farah. Et tout de suite, on écoute Si le soleil existe de Azinine.
Dans des morceaux, des morceaux, voir de ta colère comme un manteau. Mais tout le monde voit bien qu'il fait 10 fois ma taille. Je regarde sûrement pas bien le verre d'eau. Y'a des mamans qui pleurent sur des landaux en lambeau. Et je suis là à cacher des sanglots pour des fils de pute qui font jamais ma taille. Y'a des choses qui ont pas de parallèle. Je cache des heures à chercher des mots pour décrire l'indicible. Et toi tu pars avec. La chance est de sourire. Deux secondes après cette pétance, ça m'attrape pas la veste. La haine c'est d'abord une main brûlante autour de mon cou. Puis une froide dans la mienne. Je fais mes dents sur moi pour que je m'étonne que ça saigne. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en se brisant par terre, c'est la vie. Quand un oiseau l'éclate, c'est qu'il l'avait pas vu, pas qu'il pensait qu'il pouvait traverser la vie. Et chaque fois que la nuit tombe, je me demande si le soleil reviendra au pire, si le soleil existe. Je suis né désolé, si je meurs désolé, j'aurais raté le soleil, l'unique exercice. J'apprends des nouveaux tours à un vieux chemin. Je suis changé d'issue, je prends le vieux chemin. Et quand aujourd'hui devient la veille, je me répète en boucle que ça ira comme mieux maintenant.
pas d'espoir, je lui demande ce qu'il devient. Je lui demande de revenir s'il le veut bien. Résultat, c'est toujours pareil. Juste avant l'écran noir, la personne que je serais rencontra celle que j'aurais pu être. C'est la vie, j'espère jusqu'à ce qu'on soit trop différente. J'espère jusqu'à ce que j'aurais pas tout bêtement gâché la mienne. Une seule course à rien du tout, le temps de s'en rendre compte. C'est déjà l'heure de saluer en traversant la ligne. Je suis né désolé, si je meurs désolé, hein. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.
C'était « Si le soleil existe » de Azinin. Et tout de suite, on a la chronique libre de Farah qui viendra parler de l'importance des mamans.
La matinale de 19h.
Je ne suis pas partie de rien. Je suis la fille de mes ancêtres, petite fille d'une femme illettrée qui, pour les affaires, avait un talent inégalé. Ô combien intelligente avec sa diplomatie dont seule elle avait le secret. Dans ma famille, ce sont les femmes les puissantes. Des potomitans, comme on dit en créole guyanais. La responsabilité personnifiée. Des femmes courbées par le poids trop longtemps porté de ces larmes réprimées. Les hommes, eux, ont vaqué à leur liberté, laissant les femmes diriger le foyer et la comptabilité. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours choisi la liberté. Jamais la responsabilité. Dans mon corps de femme, une fille. À tout jamais une fille. Surtout ne pas en hériter de cette lourde responsabilité. Devoir tout faire. Seule. Réparer une lignée, seule. Protéger les descendants, seule. Qu'on vienne seulement oser m'écrire que la femme arabe, maghrébine, marocaine ou racisée, choisissez le terme qui vous sied, est soumise. Est-elle soumise ? Oui, à l'injonction d'être une mère, un père, une amie. Parfois même, nous nous permettons de la traiter comme une enfant aussi. Peut-être la figure qu'elle sait le moins incarner est celle de femme. Une femme, juste femme, pour le plaisir de l'être. Imaginez un peu si toute cette force, si tout ce poids était mis dans la responsabilité de briller. Non pas dans celle d'assumer, de porter, de courber les chines sous le poids du toit qu'elle tente de soutenir à bout de bras. Cela donnerait un monde digne, qui avance le dos droit, qui ne s'apitoie pas. Alors venez me dire que le voile aspire la force des femmes. À la République, elles ont donné leurs enfants, leurs bras, leur dos, leurs doigts brûlés par le feu, à force de cuisiner pour la maisonnée et puis pour le quartier. Madame, monsieur, la République, ne voyez-vous pas la fierté de certaines de parler votre langue, le français, cette langue qui n'a de cesse de coloniser l'étranger? Vous ne l'entendez pas, cet amour de la France? Considérez-vous seulement l'élan de toutes ces femmes rassemblées dans des salles d'école improvisées pour apprendre à lire et à écrire le français? Pour certaines, c'était la première fois qu'elles apprennent à lire et à écrire. Et elles choisissent de le faire dans votre langue, le français. Alors, madame, monsieur la République, quand vous aurez enfin compris que toutes ces femmes sont des piliers, pensez à leur faire une place dans votre société. Elles y feront germer leur bonté.
C'était un très joli texte. Merci beaucoup Farah et merci à tous nos auditeurs pour nous avoir suivis ainsi que nos bénévoles et toute l'équipe de ce soir. Donc Joé, Fabien, Francesca, Juliette, Farah, Thierry, Grégory et bien sûr Odéjane à la coordination.